RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
20h04, l'intégral tour jusqu'à 21h. Luc Leblanc, Thierry Bourguignon sont au rendez-vous avec vous au 32-16 et sur Twitter avec le hashtag RMC Live. Bonsoir à tous les deux, rebonsoir.
Rebonsoir Virginie.
Ah, Lucio n'est pas là, je crois, hein, Thierry.
Si, je suis là.
Ah, voilà.
J'ai oublié d'allumer le bouton.
Non, tu
nous... Oh, ça arrive, c'est la fin du tour, on commence à être un peu fatigué. Hein.
Il nous fait une Cyril.
Alors, cette 17e étape, bien agitée quand même, on a eu de l'action hein, aujourd'hui.
Action, réaction.
Ah oui, il y a eu de l'action.
Bah, c'était agréable à regarder quand même, hein, cette étape. Et oui, à écouter, bien sûr, avec vous.
Oui, bien que...
Bah, agréable avec les coureurs échappés, oui, les coureurs qui étaient devant, il y avait vraiment une belle petite guerre et tout, ça s'est bien décanté dans le col d'Alos. Le groupe s'entendait plus, donc les plus costauds ont fait un peu plus de résistance et ont lâché, je dirais, les coureurs qui étaient un petit peu plus faibles. Et puis on a retrouvé les meilleurs devant. Après, on a manqué de malchance, nous les Français, encore une fois, dans le final.
Encore une fois, bah oui, encore une fois. D'ailleurs, Yannick au 32-16 nous appelle pour parler des tactiques tricolores. Bonsoir Yannick.
Ouais, bonsoir à vous
bonsoir
trois.
Yannick.
Salut.
Ouais, et en fait, bah, moi, je me fais une réflexion depuis le début du tour, quand on voit un peu l'état de forme des Français, et puis surtout la façon dont s'est passé l'étape d'aujourd'hui. Je trouve que les directeurs sportifs français manque un peu de tactique, quoi. J'ai du mal à comprendre qu'ils aient pas poussé Pinot à partir plus tôt aujourd'hui. Parce que en fait, ce que vous disiez pendant la course, bah, c'était super pertinent, quoi. C'est qu'il aurait mieux valu qu'il arrive à reprendre un peu le Grischke au niveau du sommet pour pouvoir être dans ses roues au niveau de la descente. Surtout que dans son équipe, je pense qu'ils savent bien que c'est pas un super grand descendeur. Et puis à côté de ça, bah, quand on voit aujourd'hui les coups de fringale, les bordures qu'ils ont pris, les méformes qu'ils ont eues au début de la deuxième semaine, je trouve que c'est quand même le Tour de France, c'est en France, et bah, on n'entend pas beaucoup les directeurs sportifs français, quoi. On parle beaucoup des coureurs, je trouve qu'il y a des super bons coureurs français, des Bardet, des Barques, des Wargill, tout ça, quoi, qui commencent à sortir du bois, mais je trouve que derrière, ça pêche un peu, quoi, au niveau tactique de course. Donc je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez en fait.
Moi, je suis pas si méchant que ça avec en l'occurrence avec la Française des Jeux qui ont bien manœuvré. S'il n'y a pas la chute, tout est dans le bon tempo. Il revenait dessus. Alors c'est vrai que l'idéal aurait été qu'ils reviennent sur l'Allemand avant la descente pour profiter de sa descente et puis de l'avoir avec lui jusqu'au pied et après essayer de le larguer parce que c'est a priori c'était Pinot qui était le meilleur grimpeur hein. Il a fait une super montée les super montées parce que la dernière il l'a faite aussi bien. Bon après malheureusement il y a la gamelle, il perd un peu de temps, ensuite il a un petit problème matériel et puis l'angoisse de la descente derrière une chute. Ceci explique cela, non.
Non, mais ce qui s'est passé, c'est que Pinot, pour moi, Thibaut, a attaqué un petit peu trop tard dans le col d'Alos pour revenir sur Grischke. Après, il aurait, parce qu'il a attendu un petit peu, il regarde un petit peu comment fonctionnaient les autres, les attaques, ça revenait, tout ça, il a joué un petit peu avec les autres, mais à la limite, vu ce qu'il a fait en attaquant et reboucher pratiquement et revenir jusqu'à 57 secondes au sommet d'Alos, ça veut dire qu'il avait les capacités de pouvoir revenir sur Grischke, il aurait dû attaquer 2-3 bornes avant. Et là, il revenait sur Grischke au sommet. Puisque quand tu regardes un petit peu son attaque, il les a largués au train. Il avait un train très soutenu, il les a largués au train. Il aurait attaqué un petit peu plus tôt, il revenait sur Grischke en haut de l'os, même peut-être avant, et il pouvait se servir après de Grischke dans la descente et de l'avoir un petit peu comme lièvre et puis de suivre ses trajectoires.
Il serait peut-être là, tombé quand même.
Il était pris au piège, il a basculé avec 57 secondes, sachant qu'il est quand même moins bien, il est moins bon descendeur que Grischke. Il a pris quand même tu vois, il a pris quelques petits risques quand même, même si, tu vois, à un moment donné, quand tu sens que t'es à 57 secondes, t'as pas envie de prendre plus d'écart. Donc, à un moment donné, t'es obligé de prendre un petit peu plus de risques, au moins, au minimum, pour maintenir l'écart. Et c'est ce qui s'est passé, ben voilà, c'était la chute. Et après, ben, on connaît la suite. Hein.
Après, il est plus facile.
Mais alors, les avis divergent sur le hashtag RMC Live là-dessus. Il y a Corentin qui nous dit, par exemple, que les coureurs français ont une mauvaise stratégie de course en laissant partir des coureurs de loin alors qu'eux-mêmes devraient le faire. Alors que Rico, par exemple, lui dit, mais Pinot ne pouvait pas partir plus tôt parce qu'il devait attendre des pourcentages plus durs pour passer à l'offensive.
Ah bon?
Non. Je vous demande ce que vous en pensez à tous les deux.
Dans le col d'Alos, les pourcentages, bon, ils sont pas non plus terribles, hein. C'était à peu près, je dirais, linéaire. Je veux dire, le pourcentage était à peu près le même partout.
Le sommet était peut-être plus dur,
mais c'est, voilà, mais il fallait, voilà. Mais oui, de toute façon, il fallait attaquer plus tôt.
Oui, mais bon.
Alors,
après,
il y a deux hommes qui sont.
La tactique, on peut toujours la refaire.
Oui.
Et il est plus facile de faire la tactique après
non, mais
une arrivée. C'est clair.
Enfin, t'es pas un peu d'accord avec moi, Thierry, qu'il aurait dû peut-être attaquer plus tôt que de voir un petit peu comment fonctionner les autres.
Maintenant, c'est vrai que s'il sort avec.
Il est peut-être un petit peu trop attendu.
S'il sort avec Sibong Jaikske, il peut espérer gagner l'étape. Mais bon. C'est toujours pareil, hein. Il aurait pu avoir la chute même en étant devant tout seul. Hein.
Bon, enfin voilà, c'est fait. Voilà. C'est pas avec des cycles qu'on pourrait faire la course.
Alors, messieurs, il y a deux hommes qui sont tombés aujourd'hui. Il y a donc Thibaut Pinot, puis il y a aussi Alberto Contador. Ouais. Et il y a El Pistolero qui nous demande de ne pas enterrer Contador trop vite pour le podium. Peut-être qu'il peut avoir un sursaut d'orgueil contre Valverde.
À mon avis, Virginie, il va y avoir la guerre entre les Espagnols. Ah oui. Il y en a un qui va rigoler. C'est bien Froome.
Ah oui, c'est-à-dire qu'ils vont se neutraliser entre eux, finalement.
Mais les Espagnols vont se faire la guerre pour le podium. Valverde, il aime pas trop Contador, je crois. Enfin bon, il y a eu quelques petites embrouilles par le passé. Et donc, si tu veux, Contador, il va pas se laisser faire. Et entre Valverde et Contador, ça va être une guéguerre dans les trois prochaines étapes. Ça va être sympa à regarder. Surtout dans la Toussuire et l'Alpe d'Huez, parce que Saint-Jean-de-Maurienne, il risque peut-être pas se passer grand-chose. Il y aura quand même peut-être quelques attaques, mais ça sera une course différente. De la Toussuire et puis de l'Alpe d'Huez. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Thierry, mais.
Oui, parce que, en l'occurrence, quand on parle du col du Glandon, il fait peur ce col dans un sens inverse. Parce que là, c'est la Croix de Fer, ni plus ni moins, et on tourne à 2 km du sommet de la Croix de Fer. On prend la descente du Glandon, et c'est vrai que quand on le fait dans l'autre sens, le Glandon est beaucoup plus dur. Là, j'ai, de toute façon, le coup de gueule que j'ai eu tout à l'heure pour Movistar, c'est clair que s'ils continuent à courir, parce que là, j'ai l'impression que ils ont abdiqué. Ils espèrent simplement deuxième et troisième, la course d'équipe, l'équipe la meilleure du Tour de France, et puis écarter Contador, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, parce que quand Contador attaque dans l'avant-dernier col, il n'y avait pas lieu, il fallait pas que Movistar se mette à rouler, il fallait laisser faire le maillot jaune. Et voilà. Et là, en l'occurrence, c'est les Movistar qui ont roulé sur Contador et qui ont ramené tout le monde. Bon, c'est stupide, mais bon, c'est la guéguerre des places au général et ça s'est toujours passé comme ça et ça continue. Alors que j'espérais qu'ils prennent un peu de grain de plomb dans la cervelle, mais bon, c'est pas le cas. Hein.
Alors Valverde, c'est de lui dont veut nous parler Emmanuel au 32-16. Bonsoir, Emmanuel.
Bonsoir.
Salut.
Emmanuel, vous espérez plutôt qu'il attaque Froome que Contador?
Bah justement, aujourd'hui, en fait, je suis pas trop d'accord avec Lucho, puisqu'en fait, aujourd'hui, effectivement, ils ont réussi à écarter Contador pour le poste du podium, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on regarde sur l'avant de la course, on va retrouver au même niveau Froome, Valverde, Quintana et puis Contador. Voilà, l'équipe Sky, en fait, elle a du mal à suivre ce rythme-là. Et aujourd'hui, en sachant que Valverde, il est plus sur la fin que sur le début de sa carrière, que demain, il va passer le relais à Quintana, pour lui, c'est peut-être l'opportunité. Il y a forcément, en fait, Froome, aujourd'hui, ce qui l'inquiète, c'est surtout Quintana. C'est pas le reste des autres coureurs. En fait, il a plus peur aujourd'hui de Quintana que de Valverde ou de Contador. Ouais. En sachant que Contador a maintenant 6 minutes. Moi, je vois bien, demain, Valverde, donc dans une tactique de Movistar, Valverde dire, bon, bah écoute, je vais jouer ma carte perso, parce que c'est peut-être mon dernier tour. J'attaque, je pars devant. Chrome, il va se retrouver scellé, donc avec ces leaders-là. Il va se retrouver sans son équipe, comme ça a été le cas aujourd'hui, comme ça a été le cas dans la fin des Pyrénées. Et puis, être obligé de rouler à un moment donné, ou voir peut-être Valverde avec Contador, puisqu'il y a cette rivalité, comme le soulignait Thierry, qui vont partir tous les deux, et Quintana qui va attendre Froome, et Froome qui va être obligé de rouler. Et à un moment donné, bah, s'il revient, bah, Quintana il pourra attaquer, et Froome, peut-être qu'il y aura peut-être une défaillance.
Oui, je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Moi, je serai à la tête de Movistar, c'est ce que je mettrai. Je ferai attaquer Valverde, qui est troisième au général aujourd'hui, et je laisserai faire l'équipe maillot jaune, ou à la rigueur sortir avec Contador. Mais comme ils ont comme les Movistar ont roulé sur Contador aujourd'hui, et puis ils ont roulé en fin d'étape pour écarter définitivement Contador du podium, je pense que là il y a une guéguerre qui s'est installée pour les prochains jours, et c'est vrai que Froome va en profiter, hein. C'est clair que parce que moi j'ai pas vu Froome aujourd'hui en difficulté quelques moments.
Ça veut peut-être dire aussi qu'ils ont laissé tomber de toute façon le maillot jaune, et que ce qui leur importe maintenant c'est le podium.
Ah ben là ils l'ont montré. Ils ont montré leur aptitude, du moins. Et là j'ai l'impression, et dans leur déclaration, j'ai l'impression qu'ils ont baissé les bras pour le maillot jaune. Ils ont vu que Froome était au-dessus. Bon, ils vont encore tester, mais ce qu'ils intéressent maintenant, Movistar, c'est de garder la deuxième et troisième place au général.
Oui, mais de toute façon, on a bien vu déjà dans le dernier col que Quintana ne pouvait pas lâcher Froome. S'il avait voulu mettre en difficulté déjà Froome, il aurait déjà mis Froome en difficulté dans le col d'Alos, au moins tester. Mais ça n'a pas été le cas. Donc,
comme il a souligné, pour lui, c'était pas des pourcentages assez forts.
Ah, oui, mais enfin bon.
Mais il n'y en a pas.
Et dans les prochaines étapes, l'Alpe d'Huez, c'est un col. Oui, mais l'Alpe d'Huez, c'est un col mythique, mais les forts pourcentages, ils sont plus au pied.
5 kilomètres.
Voilà, les 5 premiers kilomètres.
Après, c'est roulant. Voilà. Hein.
Après,
c'est.
Donc, on voit mal comment on va pas mettre non plus des cols de 15 bornes à 15% pour Quintana. C'est rare, quoi. Ou alors aller dans les Dolomites en Italie, monter le Mortirolo.
Il y a la dernière étape aurait pu être excellente avec le Galibier, où là il y a quand même un fort pourcentage, malheureusement. Le climat en a voulu autrement.
Merci beaucoup Emmanuel d'avoir appelé le 32-16. Alors Emmanuel, tout le monde n'est pas d'accord
avec lui. Ton analyse est très pertinente en tout cas, bravo.
Alors tout le monde n'est pas d'accord avec lui, hein, parce qu'il y a par exemple Sheka sur Twitter qui dit mais enfin faut arrêter, mais comment on peut imaginer que ça se passe comme ça alors que le tour est fini depuis 10 jours.
Mais Virginie, on a le droit de rêver, de maintenir le suspense, parce que alors sinon on fait nos bagages.
Mais en fait, moi ce que je trouve marrant, c'est que finalement sur ce Tour de France, enfin tout s'est joué un 14 juillet, quoi. Le 14 juillet, le Tour de France peut se résumer à une journée.
C'est souvent le cas, hein. Passé, regarde les années Armstrong, il mettait un grand coup une journée et après il gérait.
Le problème, c'est que ce qui est décevant, c'est Quintana, quoi. Moi je m'attendais à mieux dans les montées, je m'attendais à avoir un vrai grimpeur colombien comme le faisait Lucho Herrera à l'époque dans les années 80, de faire des paires de fractionnés avec Fabio Parra, je me souviens, les Colombiens, c'était vraiment des vrais fractionnés, quoi. Attaque relâche et tout, et puis ça a explosé de partout. Là, Quintana, j'ai l'impression qu'il est diesel. Il attaque, ça dure 300-400 mètres, et puis il s'étouffe, il s'effondre complètement.
Il reste dans les roues.
Alors nous, on parle de Froome, on parle de Quintana, de Contador, des coureurs français. Mais Christian, lui, au 32-16, il a envie de parler d'un coureur suisse. Bonsoir, Christian.
Salut Virginie, salut Lucho, salut
Christian.
Salut Borghi.
Salut.
Monsieur Borghi, l'envoyé spécial de Sorbe 192 du Tour de France.
Hein?
C'était l'envoyé spécial, Borghi.
Eh oui.
sur le Tour de France 99 ou 2000.
99.
Voilà, c'est ça, avec
Bimaël. 250... Avec...
Ah oui, 92. je me souviens, 192. Là, sur ta chaise à l'envers. Là.
Et ouais, c'était une époque, une vieille.
Alors
époque.
Moi, je comprends pas tout, là. Hein, je
connais moins de 20 ans.
Non, mais t'inquiète pas, c'est que le... Thierry faisait le tour, et puis en même temps, il faisait le...
Ah, mais est-ce que vous n'êtes pas juste tous les trois, là, c'est pour ça.
Excuse-nous. J'avais pas vu que le maillot de meilleur grimpeur était derrière nous.
Ta question, c'est quoi, alors?
Christian.
Moi, je voulais parler de Mathias Franck, coureur suisse... Donc le leader de l'équipe YAM, parce que finalement le Tour c'est Froome, c'est Contador, c'est Valverde, c'est Quintana, mais c'est aussi des leaders des petites équipes. Je pense notamment à Koenig l'an passé, de son étape, qui avait fait 7e, à Pascal Lino, notamment avec Big Matt Aubert à l'époque de Bourgui, pour faire un petit parallèle. Et Mathias Franck, moi je trouve qu'il court bien. Bon déjà je suis un grand supporter du sport suisse en général, surtout du foot, mais je trouve que Mathias Franck court bien. Il a perdu pas trop de temps malgré une chute en première semaine. Il est arrivé dans les Pyrénées avec à peu près 4 minutes de retard, 20e en général. Et puis il s'accroche avec des Mollema, il s'accroche avec des Pierre Roland. Il est pas trop loin de Froome, pas trop, enfin à distance respectable bien sûr.
8e à 8 minutes 47,
c'est bien. Voilà, que je dis, il y avait l'opportunité de prendre l'échappée pour prendre un peu de temps, parce que finalement les 4 étapes c'est celle. Il n'y a pas d'arrivée au sommet hors catégorie, donc c'était celle qui était la plus abordable. Donc il a joué son atout, il a pris du temps. Maintenant il restera 3 jours pour son énergie choc avec ses concurrents directs, avec les Mollema, avec les Barguil, avec les Roland, avec les Bardet. Et ben moi j'ai bon espoir qu'il fasse top 10.
Mm-hmm. Alors, qu'en pensez-vous?
Il est bien passé, 8e à 8 minutes 47. Derrière lui, il y a Mollema, mais il est déjà à 2 minutes, 3 minutes même, 3 minutes derrière. Mais bon, 3 minutes dans une étape de montagne, quand on n'est pas très bien, ça va très très vite. Donc oui, Mathias Franck va s'accrocher comme Barguil le fait gentiment, et puis va essayer d'accéder au top 10. Par ce biais, du moins. Lui, ben
c'est vrai que
dedans.
Bon, on a pas trop d'infos sur lui, sur Mathias Franck, parce qu'il est, il a pas un gros palmarès, hein.
Si tu veux, sa meilleure performance sur un grand tour, c'était 84e. Ouais. Mais à l'époque, il était chez BMC, il était coéquipier de Cadel Evans. Et, depuis 2 saisons, il joue sa carte personnage chez YAM, mais YAM lui fait confiance. L'an passé, il abandonne le tour. Dans la première semaine, il se pète le fémur. Donc forcément, c'est compliqué de rallier Paris avec ça. Mais cette année, les YAM, finalement, quand on regarde bien la course, les YAM, on les a pas trop vus devant. Ils ont fait leur course un peu à l'image des équipes des grands leaders. On reste solidaire avec Franck. Ils ont fait un super chrono par équipe où Franck, il est dans le dur, mais il s'est accroché. Et voilà, YAM, c'est une équipe.
C'est vrai qu'on les a pas trop vus sur le tour quand même. Hein.
Non. Parce qu'ils ont une stratégie plutôt de cohésion d'équipe où ils restent avec Franck. Et voilà.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire sur le tour à la place de YAM? Il faut protéger Mathias Franck qui est 10e au général, ou essayer de viser une étape plus que de viser une 10e place du classement général ou de rentrer dans le top 10.
On retient toujours plus le succès d'étape qu'une 7e ou qu'une 8e place.
On peut faire les deux.
Et après, bien sûr. Pour les coureurs qui font entre 8 et 20e, parce que je trouve que c'est très dur. Et quand je vois Bourgui par exemple qui avait fait 25, 26, 27, moi je trouve ça déjà très très respectueux, parce que c'est quand même
ça, c'est bien joué. Christian, faut toujours flatter, c'est important.
Bien sûr,
alors je vais dire, c'est nul. Et pour moi, j'aurais échangé toutes ces places pourries. Je te dis bien.
Pour une victoire d'étape.
Mais une victoire. Je suis passé deuxième, troisième, quatrième. Mais vous vous rendez pas compte que ça peut être une étape. Une étape autour, c'est un championnat du monde. C'est pareil.
Merci beaucoup, Christian, d'avoir appelé le 32-16.
Si tu veux faire un débat comme ça, une étape du tour, c'est pas comme un titre de champion du monde.
Un championnat du monde, mais je te parle pas en vélo, pas en vélo.
Ah bon?
Coupe du monde, allez, une Coupe du monde.
Une Coupe du monde, ouais.
Non, un titre.
Encore une petite question, encore une petite question pour vous sur les Français. Thierry, sur l'hashtag RMC Live, qui nous dit que les Français sont retombés dans leur vieux travail. travers avec un complexe d'infériorité.
Thierry Bourguignon dit ça sur,
oui, c'est
sur
ça.
Twitter.
Mais non, il a pris un pseudo, il a pris un pseudo comme ça, je on est tranquille.
Ah, par contre, Virginie.
Oui.
Les auditeurs doivent m'écouter. Alors, Twitter. Twitter, on utilise mon nom, Lucho Leblanc, et quelqu'un a créé un compte Twitter en mettant Lucho Leblanc. Donc, ce n'est pas moi qui ai fait donc un compte Twitter Lucho Leblanc. Je ne fais pas ce genre de truc. Je suis pas
parce
Facebook, je suis pas Twitter, je suis pas tout ça.
Parce que moi, tu ne sais pas t'en servir, quoi. Voilà,
je sais pas m'en servir. Donc, Lucho Leblanc sur Twitter, ce n'est pas moi.
Voilà. Il envoie des cartes.
C'est un faux compte. Non, mais c'est
un faux compte. C'est important de le dire. Ouais, c'est un faux compte.
Exactement. Donc, si vous recevez si vous voyez des tweets de Lucho Leblanc, ça n'est pas lui. Lucho, il est là. Il est au 3216. Vous pouvez lui parler tous les soirs. Vous pouvez lui parler également à partir de 14h demain, hein, sur
RMC.
Il n'y
a pas de travers, non, mais juste deux petites secondes. Il n'y a pas de travers des Français. Non, ils ne sont pas retombés dans les travers des années passées. Ils n'ont pas peur d'attaquer. On l'a vu aujourd'hui. Il manque de chance sur ce tour aussi. Puis c'est tout.
Bon, Thierry, il faut que j'y aille, là.
On va garder une demi-heure de plus.
Non, il y a des centaines à refaire et il faut que je fasse 50 bons.
Bon, doucement, pas comme Thibaut Pinot. On fait attention.
Ouais,
à demain, 14h, la 18e étape entre Gap et Saint-Jean-de-Maurienne. Ce sera évidemment sur RMC. Rendez-vous demain tous les deux et puis dans un instant notre page foot avec notre invité Jean-Louis Triot, le président des Girondins de Bordeaux. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h27, l'Intégral Tour c'est jusqu'à 21h sur RMC. Il est grand temps de parler football avec notre invité Jean-Louis Triot, le président des Girondins de Bordeaux. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors d'abord, Jean-Louis Triot, le football français vit une petite crise cet été, une vraie crise même. Hein. On est proche de la scission entre clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est ce principe de deux montées, deux descentes entre Ligue 1 et Ligue 2 dès la fin de la saison qui arrive. Il y a le comité exécutif de la fédération demain qui pourrait annuler cette décision de la Ligue demain. Que pensez-vous de tout ça, vous, Jean-Louis Triot ?
Bah, écoutez... Je pense qu'il y a une décision qui a été prise à la Ligue, avec une majorité qui a voté deux fois le principe de deux montées, de deux descentes. Donc il faut se tenir aux décisions du conseil d'administration de la Ligue. Quant au conseil d'administration de la Fédération française, elle peut intervenir que dans l'intérêt supérieur du football, sur des décisions qui auraient été prises à la Ligue. Je ne crois pas que l'intérêt supérieur du football soit... en jeu sur une décision de ce type. Moi, j'ai toujours été favorable à cette décision. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de clubs. C'est pas tant pour protéger les clubs de Ligue 1, plutôt pour protéger les clubs de Ligue 2 qui montent. On a trop vu de clubs de Ligue 2 qui montaient sans avoir les moyens de se maintenir sportivement, mais en faisant des sacrifices pour essayer de se maintenir et qui ont disparu du paysage. Je pense à Boulogne-sur-Mer, à Aumont, à Sedan et d'autres hein, qui n'ont pas pu et qui ont pour qui la montée en première division a plus été un désastre qu'autre chose.
Mais vous comprenez qu'il y a certains présidents de Ligue 2 qui vous disent que c'est pas vraiment pour ça que vous voulez ces deux montées de descente, mais plutôt pour de l'entre-soi.
De l'entre-soi, vous savez, ça fait quand même 10% de montée. Et de descente sur l'ensemble des clubs. Avant, c'était 15%. C'est quand même pas non plus une révolution absolue. Alors, je comprends que c'est une chance de moins pour les clubs de D2 de monter. Mais pour certains clubs qui faisaient des allers-retours très rapides, une chance de plus de ne pas se mettre en difficulté.
Alors, Frédéric Thiriez, le président de la Ligue, est assez menaçant avant ce comité exécutif de la Fédé. Il dit que si la Fédération remet en cause ce principe de deux montées, deux descentes, ce serait une déclaration de guerre.
Bon, je ne sais pas s'il faut le prendre comme ça. En tout cas, ça serait... Moi, je suis assez calme sur le sujet. On prend des décisions dans un cadre légal. Si elles sont modifiées par la Fédération, il faudra faire trancher éventuellement... la décision de la fédération par les autorités judiciaires supérieures compétentes. Voilà, après, c'est vrai qu'on ne remet pas en cause le principe de solidarité avec Ligue 2. On est tous potentiellement un jour en Ligue 2, mais une décision a été prise. les clubs de Ligue 1 sont quand même les clubs qui font vivre l'ensemble du football français, y compris le football amateur. Donc il faut quand même respecter les décisions qui sont prises à la Ligue.
En revanche, vous n'êtes pas pour aller jusqu'à une gouvernance à part des clubs de Ligue 1, ce que voudraient à demi-mot certains pour éventuellement pouvoir lutter de manière plus efficace avec les autres grands championnats européens ?
Eh bien, vous vous trompez, je suis totalement pour. Je pense que, à l'image de ce qui se fait en Italie ou en Angleterre, la Ligue 1 doit se gérer, la Ligue 2 doit se gérer. Bien sûr, il faut des passerelles, bien sûr, il faut dialoguer, mais je trouve pas normal dans les décisions à prendre que des clubs de Ligue 1 se prononcent sur ce qui doit être fait en Ligue 2, et de la même manière, je trouve pas admissible que la Ligue 2 se prononce sur ce qui doit être fait à l'intérieur de la Ligue 1.
Est-ce que vous trouvez que le foot français se donne un peu en spectacle quand même cet été, et que c'est pas forcément la meilleure publicité qu'on puisse avoir ?
Bon, écoutez, il faut pas chercher des grands mots, mais bon, au contraire, en chercher d'ailleurs, parce que malheureusement en France, on n'a pas l'habitude de réformer les choses. Si on veut que ça change, l'histoire française l'a démontré, ça passe plus par une révolution que par une réforme. Donc, s'il faut modifier les choses, il faut pas hésiter à se donner les moyens et à prendre les outils nécessaires pour modifier.
Alors Jean-Louis Triot, on va parler de votre club, des Girondins de Bordeaux. Bordeaux est assez discret sur le marché des transferts depuis l'ouverture. Vous aviez dit, Jean-Louis Triot, que vous n'aviez pas forcément besoin de joueurs en plus. Votre phrase exacte, c'est « on n'est pas condamné à recruter ».
Absolument. Nous avons un effectif riche, suffisamment de joueurs à chaque poste. Les joueurs qui sont partis sont remplacés, quand ce sont des joueurs majeurs. Mais au-delà de ça, je crois que nous sommes à 28 ou 29, quand nous avions 29 professionnels, un de moins puisque nous avons transféré Emiliano Sala, nous avons prêté aussi un jeune pour qu'il s'aguerrisse, Kaabouni, peut-être qu'il y aura d'autres prêts, mais je veux dire, l'effectif est assez complet. Donc ça m'amuse un peu de constater que c'est pratiquement la seule activité, le sport professionnel, que ce soit le foot ou autre chose, où il faut changer les cadres tous les ans. Bon, moi, je me dis que quand il y a une entreprise avec des cadres qui marchent plutôt bien, il n'y a pas de raison de les changer chaque 1er janvier, au début d'un nouvel exercice. Bon, pourquoi dans le sport il faudrait... Alors, je comprends bien que le public attend du nouveau tous les ans pour susciter un peu plus d'excitation. C'est la seule raison. Mais si vous avez un effectif qui est complet, pourquoi le modifier ?
Parce que c'est vrai que quand vous discutez avec des supporters des Girondins de Bordeaux, ils trouvent que vous êtes un petit peu discret quand même sur ce marché des transferts.
Mais écoutez, les supporters de Bordeaux, comme d'autres, aimeraient que on garde évidemment tous leurs chouchous. Donc il faudrait leur demander qui ils sont et les dénombrer. Puis après, renouveler le reste de l'effectif pratiquement toutes les saisons. C'est un peu compréhensible, c'est de leur part. Ils ont envie de découvrir, de voir du changement. Bon, moi, je suis plus intéressé par le rendement de l'équipe.
Vous avez parlé de chouchou. Bon, là, j'imagine que vous allez me voir venir avec mes gros sabots. De toute façon, cette question, elle va arriver.
Ça vous va bien, les gros sabots?
On va dire ça comme ça. Moins bien que les crampons à Johan Gourcuff, apparemment.
Bon,
où est-ce que vous en êtes avec Johan Gourcuff?
Eh bien, nous en sommes nulle part. Comme ça, c'est plus simple. Nous avons pu comprendre à travers des déclarations, notamment de son agent, je crois, de son conseiller, que Johan voulait faire un point sur sa situation physique avant de réfléchir à la suite de sa carrière. Donc, respectant sa position, laissant-le retrouver son intégrité physique, et puis le jour où nous entendrons dire qu'il est prêt à se positionner pour un club, eh bien, nous verrons.
Parce que, mine de rien, ça approche quand même là, la reprise pour Bordeaux. En plus, c'est assez tôt, c'est
oui,
le
non, mais
30
je crois
juillet.
Que, oui, mais je crois que Ivan Gourcuff a laissé entendre qu'il ne serait pas prêt pour participer à la reprise du championnat. Il est en train de faire un travail personnel pour, encore une fois, se retrouver totalement physiquement. Et c'est assez honnête de sa part, d'ailleurs. Il ne veut pas s'engager dans un club sans pouvoir dire « voilà, je suis prêt pour m'entraîner à 100%, participer à tous les exercices et être disponible pour jouer. Et donc, vous... dans tous les cas, je crois qu'il a laissé entendre que ça ne serait pas pour le début de saison.
Et vous, ça, ce n'est pas quelque chose qui vous dérange si jamais vous étiez amené à engager Johan Gourcuff, que ça ne se fasse pas tout de suite avant le début de la saison ?
Non, de Johan Gourcuff, si un jour on avait le bonheur de le voir rejoindre notre effectif, ça serait un plus dans l'effectif. Aujourd'hui, on peut fonctionner sans lui. De toutes les façons, c'est la loi du genre. J'ai pas 11 joueurs qui font 38 matchs de championnat dans la saison en totalité, plus les matchs de coupe et éventuellement les matchs d'Europa League. Il y a forcément des rotations, des joueurs qui rentrent, qui sortent. Bon, bah, disons que là, il démarrait un peu plus tard que les autres, c'est tout.
Jean-Louis Triaud, le président des Girondins de Bordeaux, est avec nous sur RMC dans l'intégral tour. Ça reprend dans 8 jours hein, pour Bordeaux, avec le 3e tour préliminaire de la Ligue Europa.
Non, parce qu'on s'ennuie un peu sans match.
C'est vrai ? Vous en avez marre ? Vous avez hâte que ça...
Bah, c'est, y a une espèce de manque hein, que tout le monde doit ressentir, joueurs, dirigeants et spectateurs, public. C'est vrai qu'on s'ennuie un peu entre deux périodes de championnat.
Alors, entre l'Europe, le championnat, les ambitions des Girondins de Bordeaux sont lesquelles cette année ?
Bah, je ne sais pas si vous nous croirez, puisque vous remettez toujours en cause la volonté des clubs français de jouer l'Europa League. Nous, on va toujours à fond, voilà, que ça, qu'il s'agisse de l'Europa League, des coupes nationales ou du championnat, en essayant de figurer le mieux possible dans toutes ces compétitions, avec ambition.
Alors il y a les résultats, enfin les résultats attendus, et puis il y a aussi la façon de jouer, ça vous en discutez avec Willy Sagnol, vous voulez un jeu offensif, lui c'est ce qu'il souhaite apparemment, c'est comme ça qu'il veut jouer, ça c'est important pour vous aussi, qu'il n'y ait pas juste les résultats, mais la manière de jouer.
Bah, c'est un plus, mais si je dois, pour la manière, me priver de bons résultats, je préfère les résultats à la manière. Moi il n'y a qu'une chose qui compte. Quand on est compétiteur dans l'âme, seule la victoire est belle. Après, si on peut y mettre la manière avec un jeu spectaculaire, plaisant, tant mieux. Mais à choisir, je veux avant tout des résultats.
Et puis il y a quelque chose qui est nouveau aussi cette année pour vous, c'est le stade. Vous aviez déjà fait un match, mais ça peut vous apporter quoi ce nouveau stade dans la perspective de l'Euro 2016, mais ce nouveau stade pour toute la saison avec les Girondins de Bordeaux ?
Du plaisir avant tout, puisque notre stade de Chamonix-Mas avait beaucoup de charme, mais le charme de l'ancien, un charme un peu désuet. Là, on rentre dans une ère nouvelle avec un stade connecté, confortable, esthétiquement parfait. Voilà, avec de l'espace pour nos sièges, enfin, du réceptif, beaucoup de choses positives. Donc je pense que c'est un plaisir particulier de démarrer cette saison dans ce nouveau stade. Alors, comme toujours, il reste quelques petits problèmes à régler parce que bon, c'est un changement d'habitude, un changement de pratique, la découverte d'un nouveau lieu, des nouvelles habitudes qu'il va falloir mettre en place. Mais il faut un peu de temps sûrement pour que tout le monde arrive à trouver sa place et son fonctionnement. Mais bon, c'est un bon problème.
Et vous dites connecté, confortable, est-ce qu'on peut ajouter rempli ? Il va être rempli à chaque fois ce stade ?
Bah, je ne vais pas faire injure à quelques équipes qui attirent un peu moins de monde chez nous. Je ne pense pas qu'on fasse 40 000 places pour tous les matchs de la saison. Par contre, je suis sûr que à adversaire égal, et à classement au championnat égal, et à effectif égal, on fera au moins 15 ou 20% de plus en fréquentation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui renonçaient à Chabon, parce que bah, vous savez qu'à Bordeaux, il ne pleut jamais, mais ça, il arrive quand même qu'il pleuve un peu. Et les deux tiers du public à Bordeaux étaient sous la pluie quand ça va se passer. Là, tout le monde est à l'abri, je suis sûr que rien que pour ces conditions de confort, on aura... à situation comparable, déjà un gain de fréquentation important.
Merci Jean-Louis Triaud. Juste une petite question qui n'a rien à voir pour finir. Vous parliez de la météo, donc vous la surveillez, notamment parce que vous avez des vignes.
Oui.
Ça se passe comment ? Ça va être une bonne année aussi, comme pour les Girondins ?
Bah écoutez, je crois qu'on n'a jamais vu de conditions comparables au mois de juillet. Alors, d'ici demain, s'il se met à pleuvoir demain et pendant un mois et demi, tout le bénéfice sera perdu. Mais si on à un été normal, on s'achemine vers une très très belle vendange. Comme les paysans sont jamais totalement contents, maintenant on demanderait presque un peu de pluie pour alimenter la plante. En eau, vous voyez, donc on n'est jamais à l'abri d'une contradiction. Enfin, disons que tous les éléments sont réunis à ce jour pour faire quelque chose d'exceptionnel. Et je croise les doigts pour que ça dure.
Eh ben faisons la même chose. Merci beaucoup, Jean-Louis Trio.
Oui, parce qu'après tout, c'est pour vous qu'on produit. Hein. C'est pas on ne boit pas toute la récolte entre nous. Hein.
Non, mais vous goûtez quand même, c'est déjà bien.
Ouais, voilà, mais on vous en fait profiter aussi.
Merci beaucoup, Jean-Louis Trio. À très bientôt sur l'antenne d'RMC. Au revoir.
D'accord, au revoir.
Alors, on a eu l'avis d'un président de club de Ligue 1 sur la guerre Ligue 1-Ligue 2. Il est donc logique qu'on donne la parole à un président de Ligue 2. Ensuite, Guy Cotterêt, le président de la JOCR, sera en direct avec nous dans quelques minutes quand on aura fait un point sur le dossier Di Maria au PSG. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
20h46, c'est l'intégral tour jusqu'à 21h. Ensuite, ce sera l'after. Florent Gautreau aura en ligne Pierre-Marie Géronimi, notamment à 21h20 précisément, le président du club de Bastia, après la décision du ministère des Sports de ne pas jouer un seul match officiel en France le 5 mai, quand cette date tombe un samedi.
RMC, le Mercato Show.
Alors, l'info du jour dans le Mercato concerne le PSG et Angel Di Maria. Bonsoir Camille Gelpi.
Bonsoir à tous.
Alors c'est pas encore fait, mais Paris accélère hein, sur le dossier de l'Argentin.
Ah ouais, c'est une information RMC. Le PSG a transmis officiellement une offre de 65 millions d'euros bonus inclus à Manchester United pour le joueur. Une rencontre a eu lieu lundi à Londres entre Olivier Létang, le directeur sportif adjoint du Paris Saint-Germain, et les dirigeants de Manchester United. Les deux clubs n'ont pas encore trouvé d'accord, mais ils s'en rapprochent. Pour l'instant, le joueur est en vacances après sa participation à la Copa América, mais Laurent Blanc voudrait le récupérer dès la fin du mois pour la fin de la tournée de pré-saison aux États-Unis. Dans l'idée, le club et le joueur sont d'accord. L'ailier argentin de 27 ans veut rejoindre la capitale française. Reste à finaliser le dossier. Paris propose un contrat de 4 ans avec un salaire estimé à 10 millions d'euros nets par an. L'ancien joueur du Real demande un peu plus, 12,5 millions. Et puis, autre donnée, elle se trouve du côté de Manchester. Louis van Gaal voudrait disposer du remplaçant de Di Maria le plus rapidement possible. Et le club anglais est en négociation intensive avec le Barcelonais Pedro.
Merci Camille, on va te retrouver dans l'after tout à l'heure avec Florent Gautreau pour le Mercato Show, un Mercato Show très complet. On va tout de suite accueillir Guy Cotterêt, le président de la JOCR. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors on va reparler des petites fâcheries du football français. On a eu tout à l'heure en ligne Jean-Louis Trio, président d'un club de Ligue 1. Il est donc normal de vous donner la parole à vous, président d'un club de Ligue 2. On est à la veille du comité exécutif de la Fédération Française de Football. Un comité exécutif qui pourrait décider d'annuler la décision du conseil d'administration de la Ligue d'instaurer deux descentes et deux montées Ligue 1, Ligue 2 dès cette saison.
Oui, mais écoutez, le président Le Graët, quand il nous a reçus, ne nous a donné aucune assurance, si ce n'est celle d'évoquer le dossier lors de ce comité exécutif de demain, effectivement.
Alors vous, en tant que président de Ligue 2, vous êtes opposé à cette réforme de monter et de descendre dès cette saison?
Oui, bien évidemment, parce qu'elle ne se justifie pas. On ne change pas un règlement, puisque le règlement change depuis le 9 juillet, alors que la saison a débuté le 1er juillet. On ne change pas un règlement comme ça, déjà en cours de saison, ou si proche d'un début de saison, qui est quand même assez impactant pour les clubs, et pour ceux aussi qui ont investi dans les clubs de Ligue 2, parce qu'on les oublie, on dit que cette réforme, c'est pour que les investisseurs investissent mieux dans les clubs de Ligue 1. On oublie qu'il y a des gens qui ont investi quelquefois beaucoup d'argent dans les clubs de Ligue 2. Alors, on considère qu'un euro investi dans un club de Ligue 2, si je comprends bien ce qu'on fait le président Thirier, qui est manifestement a choisi son camp, ça vaudrait moins qu'un euro investi dans un club de Ligue 1. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on est dans l'inéquité la plus totale, qu'elle soit sportive ou financière. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi dès l'année prochaine, alors que raisonnablement même si c'est une mauvaise décision, mais si elle devait s'appliquer, elle devait s'appliquer à partir de la saison 2016-2017. Et voilà, tout d'un coup, on se précipite, tout le monde se précipite pour que ça soit dès l'année prochaine, quitte à bafouer les règles les plus élémentaires du respect des règlements.
Alors, Guy Cotteret, ce qu'il y a, c'est que le conseil d'administration de la Ligue a pris cette décision. Donc là, le comité exécutif de la fédération pourrait vouloir annuler cette décision, alors que normalement, une annulation, c'est juste si ça remet en cause l'intérêt supérieur du football. Donc ça, pour vous, ça remet en cause l'intérêt supérieur du football.
C'est effectivement bien de cela dont il s'agit. C'est l'équité entre les divisions. Je note d'ailleurs que le président Thierrier, aujourd'hui, n'est plus que le président des clubs de Ligue 1. Il a oublié qu'il devait représenter à la fois les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, et se comporte aujourd'hui chez vos confrères de l'équipe comme un président uniquement des clubs de Ligue 1. Donc il est à la manœuvre. Et pourquoi c'est grave et important? Et pourquoi on se bat autant? Parce que c'est la première marche franchie pour aller plus loin, pour aller vers une Ligue 1 à 18 clubs, et même si elle porte pas le nom de Ligue 1 fermée, parce qu'il y aura toujours une montée, une descente, mais on s'arrangera pour que le club qui descende, eh bien, soit suffisamment nourri d'indemnités liées à la descente, qu'il puisse remonter la saison suivante. Voilà. Donc c'est bien d'équité sportive, d'équité financière, je l'ai dit, dont il s'agit, et c'est complètement inacceptable. Et le conseil de l'exécutif de la fédération, dont je rappelle que c'est l'organe suprême du football français et que la Ligue n'agit que par délégation de la fédération. On l'oublie souvent et souvent les médias ne prennent pas en compte cet élément. Mais il est bien normal que dans ces conditions, ce comité exécutif se saisisse du dossier.
Guy Cotteret, le président de la JOCR, est en ligne avec nous. Si vous voulez lui poser une question, vous nous appelez au 3216. Guy Cotteret, vous êtes très virulent vis-à-vis de Frédéric Thiriez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous seriez prêt à demander le départ du président de la Ligue?
Écoutez, moi, j'ai rien à titre personnel contre Frédéric Thiriez. Je note simplement qu'il a franchi un cap qui est difficile à accepter pour les présidents de Ligue 2, qui sont tous unis, qui s'étonnent, aujourd'hui ont été éberlués, je vous assure, mais les mots ne sont pas assez forts devant ces déclarations. Quand vous êtes président d'une Ligue, en général, vous faites en sorte qu'il y ait un dialogue entre les uns et les autres. Et être à une année près pour exécuter une décision dont je répète qu'elle est à mes yeux qu'elle n'est pas bonne, et ne pas favoriser le dialogue entre les uns et les autres. Par exemple, ne même pas proposer que pour l'année qui vient et peut-être les années suivantes, on fasse deux montées, deux descentes et un match de barrage comme il en avait été question, qui avait apparemment toutes les vertus puisque ça rajoutait du suspense en fin de saison entre le 18e de Ligue 1 et le 3e de Ligue 2. Mais même pas ça, on n'essaie pas d'aller vers ça. C'est donc bien que c'est la première marche d'un projet qui est en route et qui est, à nos yeux, complètement inacceptable. Alors peut-être que c'est un peu de virulence, mais je ne crois pas, parce que tous mes collègues de Ligue 2 partagent le même point de vue et sont même quelquefois plus agressifs.
Frédéric Thiriez, justement, le président de la Ligue, vous parliez de son interview, il dit que si la fédération annule la décision de la Ligue, ce sera une déclaration de guerre. Pour vous, la guerre, on a l'impression qu'elle est déjà déclarée, là.
Bah, c'est pas une déclaration de guerre. Quand on est à nouveau président de 42 ou 43 clubs professionnels, on dit pas ça, quoi. On se comporte pas comme ça. Enfin, je sais pas de leçon à lui donner. C'est un grand garçon, intelligent, habituellement. Mais on se comporte pas comme ça. Là, il se comporte comme un président de Ligue 1. Je suis désolé. Ou alors, les présidents de Ligue 2 sont une entrave à la mise en œuvre d'un projet dont j'ai parlé très rapidement, d'une évolution qui à nos yeux, va opposer le football populaire au football paillette, ce qui est quand même pas ce qu'il y a de mieux à faire. Je pense qu'on peut trouver une unité dans ce football. En tout cas, il y en a toujours une, même si elle a quelquefois été difficile à trouver. Voilà, donc je pense qu'il a... Il est déraisonnable de tenir les propos qu'il a tenus quand on est président d'une ligue, ou alors on fait autre chose, mais on se doit rassembler et non pas être considérer qu'on est dans une déclaration de guerre.
Bah, c'est-à-dire que là, maintenant, en fait, aujourd'hui, la scission Ligue 1-Ligue 2, elle est plus en plus apparente. C'est-à-dire qu'en plus, la plupart des présidents de Ligue 1 ont soutenu Frédéric Thiriez et la Ligue. Vous, vous me dites que la plupart des présidents de Ligue 2, justement, trouvent que ces propos sont scandaleux. C'est-à-dire que là, on y va tout droit à la scission. Là, hein.
Écoutez, les présidents de Ligue 1, il faut les comprendre. Je les excuse pas forcément, mais je les comprends. On dit habituellement, c'est eux qui le disent eux-mêmes, qu'il y a au moins 6 à 8 clubs qui tous les ans tangentent avec la descente. On leur propose qu'il y ait une descente de moins, donc un tiers de risque en moins de descente. Vous feriez quoi à leur place? Vous n'allez pas dire, surtout quand on les consulte comme ça par mail ou en la main, que vous êtes contre une disposition de cette nature-là. Franchement, il faudrait être fou. Donc il appartient au
monsieur. Pour vous, c'est du protectionnisme, quoi, ce qu'ils font.
Ah, bien sûr, c'est normal. Moi, ça ne me choque pas.
Et quand Jean-Louis Triaud nous disait, mais en fait, ceux qui protestent en Ligue 2, c'est uniquement les présidents des gros clubs susceptibles de monter en Ligue 1, vous lui répondez quoi?
C'est complètement, qu'il se trompe complètement et que d'ailleurs, il y a référence à des actions futures où nous avons déposé un référé et l'ensemble des clubs a donné délégation mandat. Donc pour à la fois déposer ce reste qui était
sur le. On ne vous entend plus très bien, Guy Cotteret.
Je suis désolé. Vous m'entendez?
Voilà, si vous pouvez juste terminer, voilà, oui, sans oui. Bouger, là, comme ça, on vous entendra mieux.
Voilà. Je disais que l'ensemble des clubs a donné mandat à nos avocats pour nous représenter dans une action, alors à la fois en référé et sur le fond, une action qui a déjà été déposée devant le Conseil d'État. Voilà.
Merci beaucoup, Guy Cotteret, d'avoir répondu à nos questions sur RMC, président de la JOCR. Donc, demain, comité exécutif de la Fédération française de football. On va voir ce que ça va donner et si ce comité exécutif annule ou pas la décision du conseil d'administration de la Ligue d'instaurer deux descentes et deux montées entre la Ligue 1 et la Ligue 2.